Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. Émission réalisée en direct par Monde Marouf. Et l'invité du Book Club aujourd'hui est Léonard Anthony. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe Robichon.
Vous êtes praticien en hypnose écologique et spécialiste de la fatigue, observateur d'humains depuis au moins 20 ans.
Au moins.
Ancien aquaphobe.
Absolument.
Et collectionneur de timbres.
Vous savez tout.
Et voleur de timbres. Mais ça, c'est une autre histoire. Vous publiez « On ne choisit pas de naître, on décide de vivre » aux éditions Overjoy. Et ce qui m'a alerté, c'est que ce sont des écrits déambulatoires. Alors qu'est-ce que vous appelez, vous, des déambulations littéraires ?
Pour tout vous dire, l'expression m'est venue en pensant à plusieurs choses. La première, c'est une promenade que j'avais faite dans la cathédrale de Chartres, où il y a un déambulatoire. Et j'avais lu qu'au moment de la construction de la cathédrale, et encore plus tard à travers les âges, les moines, sur ce labyrinthe, il y a un labyrinthe au sol, se promenaient pour se perdre dans leurs idées, pour que jaillissent de nouvelles dynamiques.
Dans la cathédrale. Et toujours en l'état.
Toujours là, je vous invite
c'est
à visiter. Et j'avais lu aussi qu'un grand nombre de créateurs, je pense en l'occurrence au compositeur Sergueï Rachmaninov, dans sa jeunesse, il raconte que quand il était coincé dans une composition, il écrivait au bureau, et bien plutôt que de rester figé comme nous, on peut l'être devant nos écrans abrutis face à un tableau Excel où on se piège dans des calculs ou un document quel qu'il soit, il partait à Saint-Pétersbourg où il habitait, sur la perspective Nevski, pavé de briques rouges, et il marchait, il déambulait jusqu'à ce que les idées jaillissent. Et ensuite, quand sa main se remettait en mouvement, il allait à nouveau se remettre à écrire.
Alors, il y a quelques festivals littéraires aujourd'hui qui s'appellent déambulations littéraires. Mais ce n'est pas ça qui vous a inspiré.
Comme vous le voyez.
Voilà. Alors, on va commencer très tôt par une chanson. Je voudrais qu'on l'écoute maintenant, que vous écoutiez les paroles. C'est une chanson qui a 43 ans. C'est la complainte de la serveuse automate. C'est Fabienne Thibault qui l'interprète. Alors, j'ai choisi de passer la version originale, extraite de l'opéra rock Starmania. Donc, c'est Michel Berger et Luc Plamondon. Et vous allez voir, la chanson n'a pas pris une ride.
J'ai pas demandé à venir au monde. Je voudrais seulement qu'on me fiche la paix. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, mais faut bien que je paye mon loyer. Je travaille à l'underground café. Je suis rien qu'une serveuse automate. Ça me laisse tout mon temps pour rêver. Même quand je tiens plus debout sur mes pattes, je suis toujours prête à m'envoler. Je travaille à l'underground café.
Ces questions existentielles de Marie-Jeanne, la serveuse automate qu'on retrouve dans le livre de Léonard Anthony. Alors, elle commence tout de suite l'entrée, c'est pour ça que j'ai pensé à cette chanson quand j'ai lu votre livre, c'est « J'ai pas demandé à venir au monde, mais personne ne demande à venir au monde ». D'ailleurs, nos parents ne nous demandent même pas notre avis et on choisit pas l'endroit où on est, la ville où on est, la couleur qu'on a. Ça vous vient d'où cette question existentielle ?
Pardonnez-moi le rire parce qu'en fait je suis assez ému parce que cette chanson est magnifique. J'avais oublié cette chanson.
Mais c'est exactement la thématique de votre livre parce qu'elle se demande dans toute cette chanson ce qu'elle va bien pouvoir faire de sa vie, mais elle n'a pas d'idée, elle,
non,
de ce qui pourrait rendre sa vie meilleure.
elle n'a pas d'idée et au fond, elle pose assez bien la question dès le départ et on sent une tristesse et une souffrance qui traversent beaucoup, beaucoup de gens. Moi, la question est venue de deux façons. La première, c'est qu'évidemment, comme vous le dites, ça fait longtemps que je vois des gens, que je reçois, et j'ai vu que c'est une question qui traverse beaucoup, beaucoup de personnes et qui a pris une autre ampleur depuis le premier confinement et le début de la pandémie. C'est une autre dynamique qui est née là-dedans. Beaucoup de gens s'interrogent sur quel est ce sens de la vie, quel est le sens de l'existence, puisque nous n'avons pas choisi de venir au monde. À vrai dire, si je peux vous faire une confidence, qui n'est pas dans le livre d'ailleurs, j'y pense maintenant, moi, c'est même pas que j'ai pas choisi de venir au monde, c'est j'aurais pas dû venir au monde. Ma mère a eu un certain nombre de fausses couches avant qu'elle puisse m'enfanter. Elle était en Inde, et c'est grâce à la science et à la technologie que moi, il paraît que j'ai inauguré une forme de couveuse, etc., là-haut, dans la clinique où je suis né. Je devrais pas être là, donc je suis fondamentalement même une erreur système.
D'accord. L'erreur 404.
D'où la nécessité de s'interroger.
Mais le système, finalement, de la création n'est pas toujours bien fait, puisque on n'est pas toujours de la couleur qu'on voudrait, de la forme qu'on voudrait, du physique
Absolument.
Qu'on voudrait, avec les allergies qu'on a.
Vous avez bien lu le livre.
Ouais, c'est ce que vous racontez dans votre livre. Et vous, alors, vous posez une question à votre mère, mais pourquoi je suis né de cette couleur-là ?
Oui, parce qu'en fait, il s'avère que à l'époque où j'étais à l'école, j'étais le seul enfant de couleur. Et donc, évidemment, pour l'ensemble de la population blanche, entre guillemets, qui était là, j'étais un intrus. Et donc, on me l'a fait remarquer. Mais moi, je ne savais pas, puisque j'avais jamais pris conscience que j'avais une couleur. Donc, tout d'un coup, je questionne. C'est la première question existentielle, en fait, que je pose. Et ma mère me regarde avec des yeux, sachant pas quoi répondre.
Vous avez 6 ans. Hein.
J'ai 6 ans. C'est le début du question.
Et comme les enfants sont très gentils, il y avait à l'époque... Alors, c'était un dessin animé. Hein.
C'est un dessin animé.
C'était une vache qui s'appelait la Noiraude. Et vos camarades, vous avez affectueusement,
absolument,
j'imagine, surnommé le Noiraud.
C'est ça. En fait, même la Noiraude, en fait. On n'avait pas les accords
à l'époque. Ouais. Les enfants sont cash pour ça.
Ils sont cash. Et c'est effectivement, quand vous avez 15-20 personnes qui vous disent la Noiraude, ben, ça commence à vous interroger. Quoi. Vous vous dites, tiens, il y a un truc qui ne va pas. Et c'était le début, vraiment, de ce questionnement. Évidemment, je ne vous cache pas que le questionnement est venu rétrospectivement.
Oui. Donc on ne choisit pas à venir au monde, et si on demandait à la fin de leur vie, de tous ceux qui vivent justement, finalement s'ils étaient à refaire, est-ce que tu choisirais de venir au monde ou pas ? Parce que c'est plutôt une question de fin de vie, ça.
Je crois pas, je crois que c'est une question qui est permanente, en tout cas c'est ce que j'observe. Moi, d'ailleurs, je pense que je me suis posé la question, peut-être comme tout le monde à différents moments, quand on a des difficultés, c'est de se dire, mais... pourquoi tout ça me tombe dessus ? Pourquoi moi ? Et au fond, la question sous-jacente et presque ontologique, c'est pourquoi je suis là, au fond. Et d'une certaine manière, une réponse nous a été apportée à travers le temps, celle de la religion, qui est une réponse qui te dit tu es là parce que tu es le fils d'eux et parce que Dieu l'a voulu. Mais à l'époque ou maintenant en Occident, en tout cas, la science prend le pas et la philosophie interroge. Il n'y a pas de réponse directe, évidente et facile. Donc c'est une question qui vient nous titiller à travers le temps. Mais vous avez raison sur un point, peut-être que la réponse, on la regarde totalement différemment à la fin d'une vie. C'est encore un peu tôt pour moi, je crois, pour pouvoir vous donner la réponse.
Mais combien est-ce que vous avez eu de vie, vous, déjà, dans votre vie ?
Vous parlez de mes réincarnations ou...
Alors non, pas encore. Vous parlez de votre vie sur cette terre. Combien est-ce que vous avez eu de vie ? Et quand on parle de vie, c'est j'interroge votre parcours professionnel, puisqu'à un moment donné, vous avez dû vous réorienter parce que vous avez fait ce qu'on appelle un burn-out.
Mais j'en ai eu un certain nombre. Je ne les ai jamais comptés, pour tout vous dire. Mais je pense que le moment où je fais où je frôle avec le burn-out, je suis dans l'antichambre du burn-out, se fait une révélation, quelque chose se dessine et là, de manière claire, je me dis, il faut changer. Il faut prendre un autre logiciel. Celui-là mène nulle part. Et ces questions-là, j'allais dire la deuxième partie du titre, qui est on ne choisit pas de naître, mais on décide de vivre.
Oui.
Je comprends que si je m'inscris dans un effort de volonté, c'est échoué. Et que la réponse au mouvement qui doit jaillir de cette non-décision de naître, elle vient dans un processus décisionnel, sans volonté.
On peut naître et puis on peut renaître.
Exactement. Et c'est une décision. Une décision, c'est pas une volonté, c'est sans effort. c'est presque le fruit de la volition sans le vouloir.
Vous avez une première vie professionnelle où vous êtes, voilà, où vous réussissez bien.
Oui, à vrai dire, moi, en fait, la réussite, elle, pour moi, elle tient du fait de l'épanouissement. Je dois avouer que de mes différentes vies, même à l'époque où j'étais musicien, organiste, qui est une vie avant d'être start-upper, j'étais épanoui et heureux. Dans toutes ces vies, j'ai été épanoui et heureux.
C'est comme quand vous vouliez être Richard Klederman.
Ça, c'est une métaphore. C'était pas moi, mais j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour lui.
Ça pourrait être vous. Ça pourrait être vous. Alors, Richard Klederman, vous parlez du jugement dans votre livre. On juge beaucoup, par exemple, la musique de quelqu'un comme Richard Klederman. Mais quand on sait le succès, le vrai succès qu'il a eu, on peut se moquer. Parce que finalement, le gars, il a vendu des dizaines de millions de disques. Et il a fait des concerts devant des dizaines de millions de personnes dans le monde entier.
Et il continue. D'ailleurs, c'est pas parce qu'on n'en parle pas en France. Si vous allez sur son site internet, ça continue. Donc... C'est ce que je dis dans le premier chapitre que j'ouvre sur la question du jugement. Je dis bien malin celui qui a toutes les cartes en main pour pouvoir juger. Et c'est ce qui aide dans le processus décisionnel de vivre, à mon sens, c'est d'être très modeste face au jugement.
Quelle distinction vous faites entre l'acte de vivre et celui de décider de vivre ?
Je trouve que dans l'acte de vivre, il y a deux cheminements. Il y a celui, effectivement, qui est sous-jacent, qui est intriqué à celui de la décision. Je vis parce que je décide de vivre. Mais ensuite, il peut y avoir un chemin détourné, qui est plus lourd, qui est celui, je suis dans l'acte de vivre, mais par un empoisonnement permanent et un questionnement sans cesse, qui ne cesse de me mettre des embûches. C'est-à-dire que si je suis dans l'acte de vivre, mais dans un acte qui est alourdi en permanence d'une première partie par un processus vital qui est en inadéquation par mes gestes, par ma manière de penser, par ma manière de me mouvoir dans la vie, on a parlé du jugement, mais j'ai parlé aussi de l'envie, par exemple, dans le livre. Et par ailleurs, si je décide uniquement de vivre dans un monde qui est nourri par une certaine forme de rationalité à l'extrême, c'est ce que je dessine dans la deuxième partie du livre, et que j'oublie ce qui est inhérent même à l'existence. C'est-à-dire, je prends pour exemple le chaos, par exemple. Aujourd'hui, plus personne ne veut entendre parler du chaos, pourtant le chaos fait partie de la vie. Eh bien, si je comprends comment fonctionnent les fondamentaux de l'existence, si j'apprends à danser avec ces différents fondamentaux, alors je suis dans l'acte de vivre totalement différemment.
Mais finalement, aujourd'hui, vous avez une vie qui vous convient.
Oui.
Alors là, vous regarderez la vidéo qui a été... Puis qu'on est filmé, vous me faites « oui
». Voilà un geste hypnotique intéressant. Oui.
C'est-à-dire que vous me faites « non » de la tête et vous me dites « oui ».
Alors, je pourrais vous faire ce que font les Indiens en Inde. Oui.
Voilà. Mais ça, je ne sais pas l'interpréter.
Si vous voulez, la question est extrêmement tronquée, complexe et peut-être fausse. C'est-à-dire, est-ce que la vie me convient ? Est-ce que ça doit être même une décision, là, encore une fois. Est-ce que je dois vivre obligatoirement une vie qui me convient ? Ce que je veux dire par là, c'est que si on cherche uniquement à être dans une vie qui nous convient, on peut tout d'un coup se laisser piéger et s'enfermer et regarder tout ce qui ne nous convient pas. La réalité, à mon sens, tient plus dans le fait de vivre la vie qui nous est donnée.
D'accord.
Et ensuite, on l'ajuste.
D'accord, mais vous n'êtes plus en train de courir après le temps, aujourd'hui. Vous n'avez plus la boule au ventre le matin quand vous levez, en disant, voilà, qu'est-ce qui va encore m'arriver ?
Oui et non.
Des tableaux financiers.
Oui et non, parce que là encore, ce serait un mensonge. Je pourrais vous dire oui comme ça.
D'accord.
Ce que je veux dire par là, c'est que, je crois que je le dis dans le livre quelque part, je ne suis pas en quête de sagesse et je ne suis pas un sage. C'est-à-dire, je n'arrive pas à un absolu. La réponse à votre question, elle est là. C'est-à-dire, il m'arrive toujours d'avoir occasionnellement la boule au ventre, sauf que j'en rigole, après avoir vécu la tristesse.
Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui tous les lundis matins se lèvent, bim, boule au ventre. Ils disent, ils regardent leur semaine, ils se disent, là, vivement vendredi.
Oui, et ça, c'est tragique.
Il y en a beaucoup, moi. Alors là, vous interrogez vos collègues demain, comment ça va ? Comme un lundi. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire comme un lundi, mais vivement le week-end.
Oui, et vous voyez, au moment où on parle beaucoup de la question de la retraite, etc., j'entends la même chose, beaucoup de gens qui disent vivement la retraite. Et au fond, on pourrait convoquer Sénèque pour répondre à cette question qui nous disait, déjà à l'époque, avec ces mots bien plus mieux formulés, l'homme devrait s'inquiéter de tous les jours, de toutes les journées qu'il laisse mort derrière lui, que de celle qui va venir devant lui.
En tout cas, vous n'êtes pas un sage. En tout cas, vous dites que vous n'êtes pas un sage, mais vous avez la voix du sage. Ah, c'est un début. Léonard, Anthony est avec nous et l'invité du Book Club jusqu'à 13h sur BFM. Et moi, on me fait oui avec la tête, mais est-ce que c'est un oui, la pub va partir, ou c'est un oui, je peux continuer? C'est un oui, la pub va partir.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et c'est le Book Club de Léonard Anthony qui vient nous présenter son recueil de textes. Hein, ça s'appelle « On ne choisit pas de naître, on décide de vivre » aux éditions Overjoy. Et aujourd'hui, dites-vous, on a tendance à confondre le bien-être et le bien-aller. Pourquoi le bien-être et le bien-aller, ce n'est pas la même chose ?
Alors évidemment, vous allez me dire, c'est une subtilité de langage, mais le bien-être est devenu une formule, c'est devenu la source d'un ensemble de produits marketing. On est très loin de la première intention. Et si vous allez sur les réseaux sociaux, vous verrez qu'il y a des dizaines et des dizaines de millions de comptes à travers le monde qui veulent vous expliquer des recettes de bien-être. Et si il y en a certaines qui vont vous convenir. Et maintenant, il y a des injonctions qui viennent et qui sont associées à cela, voire des auto-injonctions. Je prends cet exemple que je raconte, qui est toutes ces personnes qui font le Miracle Morning quand ils sont à Bali ou à Hawaï. Quand il fait
nuit. Faut expliquer à tout le monde ce que c'est, parce que
le Miracle Morning.
Même si ça s'est popularisé, mon oncle qui est en face de moi ne sait pas ce que c'est que le Miracle Morning.
Alors, c'est toutes ces formes de rituels que vous allez faire le matin en vous levant, par exemple, faire des salutations au soleil à 5 heures du matin. Or, si vous habitez en France en ce moment à 5 heures du matin, le soleil ne se lève pas et il fait nuit. Et donc, vous allez vous trouver un peu à l'écart et vous allez vous mettre des injonctions qui sont complètement inutiles. Vous allez, par exemple, aussi vous mettre à pratiquer la méditation alors que ça ne vous convient pas du tout. Et donc là, c'est là où il y a une confusion. On se met des injonctions voulant être dans le bien-être à tout prix alors que ça va à l'encontre de notre bien-aller.
Vous exagérez.
Je souligne un trait.
Vous soulignez un trait, mais c'est vrai que si on prend le Miracle Morning, c'est se lever, moi je l'ai compris comme ça, c'est se lever plus tôt le matin, ça peut être une demi-heure ou une heure, pour prendre du temps pour soi et pour faire quelque chose de bien pour soi.
Oui, mais
donc,
si ça
peut être lire un livre, ça peut aller faire une demi-heure de marche, enfin voilà.
Oui, vous avez raison.
Prendre une douche froide,
mais si ça ne vous convient pas et que vous n'êtes pas du matin, vous voyez, et oui. Qu'en réalité, la douche froide, vous préférez la prendre en rentrant du travail le soir.
Oui, après
c'est là où la confusion elle est dans l'injonction entre bien-être et bien-aller. Mais si ça vous convient, c'est formidable.
Mais c'est la mode. En fait, il y a aussi un phénomène de mode et tout le monde dit voilà, je fais le Miracle Morning. Voilà, parce que tout le monde le fait et c'est bien. Et au bout de 3 mois,
le tri se fait naturellement.
Là, on est en janvier, c'est le mois des bonnes résolutions. Donc en fait, mais dès février, on est passé à autre chose. Vous nous avez parlé de votre mère tout à l'heure, mais vous avez, vous, été élevé par votre grand-père. Alors pourquoi est-ce que vous avez été élevé par votre grand-père ?
Parce qu'il s'avère tout simplement que mon père n'était pas là. Et donc nous, dans la culture indienne, on vit un peu en tribu. Et donc il y avait mes grands-parents et mon arrière-grand-mère aussi qui étaient là.
D'accord.
Donc on a une culture transgénérationnelle et donc c'était l'homme qui était présent qui m'a élevé.
Voilà, donc c'était votre grand-père. Et votre grand-père disait « toute question doit être abordée avec gravité ». Qu'est-ce que ça veut dire, puisque vous avez un chapitre qui concerne la gravité et aujourd'hui, on a l'impression que l'heure est grave dans nos vies.
Vous avez raison, il disait cette formule-là et elle m'est revenue avec une résonance très différente dans le contexte dans lequel nous sommes. En effet, tout est toujours grave. Le matin, nous nous levons avec le visage fermé et pour beaucoup de gens, tout ce qui est entendu est grave et doit être pris avec sérieux. Rarement avec nonchalance et légèreté. Et à chaque fois que je reçois une personne qui vient et qui m'explique à quel point les choses sont graves dans sa vie, parfois, évidemment, pour des raisons éminemment légitimes, parfois non. J'ai noté que dans bien nombre de cas, ces personnes ont une posture, une manière de s'installer complètement déséquilibrée. Par exemple, assis sur une fesse, les jambes entortillées, les bras croisés, totalement déséquilibrées, comme si elles avaient cherché involontairement à perdre leur propre sens de gravité. Il m'arrive souvent de leur apprendre, de prendre le temps de laisser revenir une posture plus confortable, où le centre de gravité se pose pour pouvoir justement se débarrasser de la gravité dans nos vies. Et c'est là où j'ai résumé, j'allais dire, une sentence qui me semble essentielle pour pouvoir décider de vivre. Tout commence par la vivre confortablement et par commencer à s'asseoir confortablement.
Je suis assis sur une fesse. Discrètement, le gars qui se recule dans sa chaise, on n'a pas vu.
Et observer la différence.
Oui. On exagère toujours, finalement. On parle de choses qui sont graves, mais qui sont en réalité pas vraiment graves.
Oui.
Parce que si c'était vraiment grave, ça serait autre chose.
Absolument. Et alors, évidemment, on vous dira, oui, la mauvaise réponse, il y a toujours quelque chose de plus grave. Nous ne sommes pas en train d'être dans un camp quelque part où nous ne vivons pas la guerre en ce moment. Donc toute comparaison, encore une fois, n'est pas raison. Mais il arrive simplement, et je sais que c'est difficile à croire, qu'en s'asseyant autrement, en retrouvant donc du confort dans sa vie, et c'est là où j'invite la question de l'absurde comme levier pour vivre, pour décider de vivre mieux, eh bien tout d'un coup, en s'asseyant confortablement, les choses apparaissent moins graves sans effort, sans essayer de convaincre quelqu'un. Si vous essayez d'expliquer à la personne que ce qu'elle vit n'est pas grave, vous allez droit dans le mur. Si vous la faites sentir qu'il y a plus de légèreté autour d'elle, alors la perspective change complètement.
Et c'est ça qu'il faut faire, c'est changer le regard qu'on a sur notre propre vie, sur les choses qui nous entourent.
S'ouvrir à d'autres perspectives. Car nous sommes nous-mêmes des points de fuite différents. Et donc nous pouvons observer le même événement de plein de façons différentes. C'est pour ça que je dis la question de savoir qu'est-ce qu'est la vérité est une question extrêmement complexe. Je reviens au début de notre conversation. Juger, c'est décider qu'on est en capacité de savoir ce qui est vrai. Or, si on prend le contre-pied de ce sujet et qu'on se dit « je peux regarder quelque chose qui m'est arrivé d'une autre façon, c'est pas forcément vrai », alors d'autres perspectives s'ouvrent et les choses peuvent paraître beaucoup moins graves.
Sur le jugement, vous avez cette phrase, hein, vous écrivez que juger le jugement est une source de fatigue incommensurable. Absolument. Et pourtant, on est dans une société, on est dans la société du jugement, et nous passons notre temps à juger les autres.
Pouce levé ou baissé sur les réseaux sociaux.
C'est ça ?
Ce n'est que ça. Et vous verrez d'adopter une tangente, une autre manière, de se le rappeler régulièrement, encore une fois, on trébuche tous, hein. De tout d'un coup se dire « je n'ai pas forcément la nécessité à juger », votre vie en sera considérablement allégée et la décision pourra se former.
Et par la même occasion, se libérer du jugement des autres.
Absolument. Moi, c'est un des fondamentaux dans mon existence aujourd'hui. Vous me posez la question de savoir si j'étais heureux dans ma vie aujourd'hui. C'est un des éléments clés. C'est-à-dire, je me fous contrement de savoir ce que l'autre pense de moi. Mais complètement.
Mais vraiment.
C'est radical.
Alors, on va vous juger. Enfin, vous n'avez pas été jugé, puisque vous n'avez pas été pris. Vous avez volé un timbre.
J'étais adolescent. Ouais.
Vous êtes fier de vous ?
Je ne saurais pas quoi répondre à cela. Ça va m'aider à réfléchir depuis. Mais sur le moment, comme je le décris dans le livre, c'était la source d'une culpabilité terrible.
C'est un beau timbre, moi j'espère.
Je m'en rappelle même plus, pour tout vous dire.
Vous avez un passage sur le temps qui passe, d'ailleurs, finalement. Et il y a cette chose qui me fascine. Vous dites que finalement le temps, on peut l'étirer. Le temps n'est pas le même pour tout le monde.
Le temps n'est pas le même pour tout le monde, et même pour une personne, le temps est différent selon le moment où on le vit. C'est-à-dire que si vous êtes avec une ou un de vos amis, le temps va vous paraître très court. Avec quelqu'un que vous appréciez, si vous assistez à une conférence qui vous ennuie considérablement, le temps va vous paraître très très long.
Comment modifier le rapport qu'on a avec le temps ?
Alors, il y a tellement de choses, hein, c'est ce que j'ai écrit tout un chapitre dessus.
Vous remarquerez que plus. Higelin disait que plus le temps passe et plus on savait qu'il allait nous manquer. Mais vous remarquerez que plus on vieillit et plus le temps passe vite.
Plus le temps passe vite et cette sensation du manque, en réalité, moi je l'observe même chez des jeunes adultes aujourd'hui. Nous passons notre temps à courir après le temps alors que notre espérance de vie a triplé. N'y a-t-il pas là un paradoxe ? Il a triplé en 200 ans. Donc la première des choses, il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais la première qui me vient à l'esprit maintenant, c'est de ralentir le temps. C'est de ralentir le temps, de prendre le temps, de se donner du temps.
Et comment est-ce qu'on ralentit le temps ?
Alors, je vais vous raconter un exercice que je fais faire aux personnes qui viennent me voir sur ce sujet.
Une fois qu'ils sont bien assis ?
Une fois qu'ils sont bien assis confortablement, je leur fais écouter une trotteuse d'une montre, vous voyez, le tic-tac. Et je leur propose d'écouter d'abord la trotteuse, et ensuite je leur dis, maintenant vous allez cesser d'écouter la trotteuse, mais vous allez vous concentrer sur l'espace-temps qui sépare deux pulsations. Et voyez comment cet espace-temps est confortable, lui aussi. Imaginez-le comme un hamac dans lequel vous pouvez vous laisser bercer. Et très souvent, au bout d'un certain temps, quand je demande à la personne combien de temps s'est-il écoulé, l'évaluation est très très supérieure aux quelques minutes que nous avons passées. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont laissés prendre par le temps. Ils ont donné, pour reprendre la formule, beaucoup de temps au temps.
À quelle heure votre réveil a-t-il sonné ce matin ?
Je ne mets jamais de réveil. Je n'ai pas de réveil. C'est un luxe. Je me réveille tout seul. Mais je me lève tôt. Pas pour faire le miracle morning.
Mais ça peut être angoissant finalement de ne pas avoir de réveil, de se dire ben, je vais pas me réveiller, je vais être en train au travail.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a noté, à part si vous faites un excès la veille ou que vous couchez très très tard, dans ce cas-là, je vous conseille de mettre un réveil, mais votre biorhythme sait assez bien gérer les choses. Et puis, il y a un avantage à ne pas mettre de réveil, c'est qu'on peut s'éveiller. Et il y a une vraie différence que je décris dans le dernier chapitre du livre qui s'appelle Éveil, entre se réveiller et s'éveiller. Pas comme on l'entend dans les dynamiques de bien-être, encore une fois, mais autrement.
Jamais de panne de réveil.
Ça m'est jamais arrivé. Très honnêtement, jamais arrivé.
Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. J'ai regardé tout le texte, du coup. Parce que c'est vrai qu'on s'arrête toujours à cette première phrase. Il y a un temps pour tout. Mais il y a la suite.
Absolument. Absolument. C'est un texte essentiel.
Bon, on va prendre le temps de vous écouter. C'est le book club de Léonard Anthony. On ne choisit pas de naître, on décide de vivre. C'est le titre de votre nouveau recueil de textes, issu de vos déambulations littéraires chez Overjoy. Et vous êtes notre invité jusqu'à 13h.
Le book club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et c'est le Book Club de Léonard Anthony qui est là pour nous parler de « On ne choisit pas de naître, on décide de vivre » aux éditions Overjoy. C'est votre 10e livre et on va rarement en cuisine pour savoir comment ça se fait un livre. Et pourtant ce livre, il a une histoire.
Oui, il a une histoire et pour moi très personnelle parce que... Comme disait l'autre, j'ai donné beaucoup de moi-même dans ce livre, et puis c'est peut-être la synthèse de toute une vie. J'ai convoqué pour m'aider à explorer ces sujets aussi bien des philosophes que des compositeurs, que la religion, que des musiciens, que des peintres.
Il y a Camus, vous avez relu
Camus, qui m'a introduit
avec un livre qui est un peu oublié d'ailleurs.
Oui, le mythe de Sisyphe que j'avais lu au lycée, où j'avais absolument rien compris. Il a fallu que j'y revienne 50 ans ou 40 ans plus tard plutôt, et 30 exactement. Et donc j'ai un ami avec qui je parlais, je lui disais, tu sais, c'est le 10e, mais je crois que c'est le premier en réalité. C'est mon premier livre parce que c'est celui qui est le plus proche de ce que je suis. J'allais dire, pour reprendre une formule de Kate Jarrett, qui dit c'est ce qui a probablement de plus près de mes os. Je suis allé creuser aussi loin que possible.
Vous avez enlevé le gras.
J'ai enlevé le gras.
Ouais.
Et je suis.
Oui, il n'y a que le muscle en fait.
Ouais.
Kate Jarrett, ça tombe bien que vous en parliez parce que je ne savais pas comment l'introduire parce que j'ai cherché partout un extrait de ce fameux concert, un concert qu'il a donné à Cologne en 1975. Donc j'ai pas trouvé d'extrait gratuit. Il y a des gens qui ont interprété, mais c'est une histoire incroyable. Alors c'est un musicien de jazz, lui.
Oui, c'est un musicien de jazz qui a été popularisé par un disque qui est entre le jazz, la pop, l'ostinato emprunté à la musique russe du début du XXe siècle. Enfin, c'est un musicien qui, à mon sens, révolutionné l'histoire de la musique.
Mmh. Et donc, un jour, il va faire un concert à Cologne. Et rien ne se passe comme prévu.
Oui, c'est une situation complètement chaotique. Le chaos s'invite à tous les étages.
Le piano n'est pas là. Enfin, le piano sur lequel il devait jouer n'est pas là.
Le piano sur lequel il doit jouer n'est pas là. Il est dans une autre salle de concert.
Il a l'opéra.
Il a l'opéra. Au moment où on essaie de faire venir le piano, il se déclenche un orage invraisemblable. Lui a un mal de dos carabiné. Il est épuisé parce qu'il a fait 15 heures de route. Il n'arrive pas à dormir. Et au moment où il essaye de dormir à l'hôtel un peu avant le concert, le sommeil ne s'invite pas. Il va au restaurant, on ne lui sert pas son plat. Le plat arrive 15 minutes avant le moment où il doit partir. Bref, c'est le chaos de bout en bout. Tout était écrit pour que ce concert soit raté, complètement raté.
Et donc, un membre de l'équipe décide, pour les collections de l'opéra, d'enregistrer le concert, qui aurait un enregistrement. Alors que oui. C'était pas prévu que ce soit enregistré.
Non, au départ, c'est pas prévu pour être enregistré. Alors, il faut se rappeler quand même que à cette époque-là, c'est le producteur qui décide d'enregistrer. On enregistrait un peu à la tout-va des concerts. D'ailleurs, maintenant, on a des disques, des enregistrements qui ressortent, des bootlegs, comme ça s'appelle. Et ils se disent, bon, on va l'enregistrer comme ça parce que le piano est très mauvais. C'est-à-dire que c'est un piano de répétition. Et il s'avère que c'est aujourd'hui le disque de jazz piano solo le plus vendu
au monde. Dans l'histoire.
Voilà une dimension intéressante si on veut réfléchir un peu sur le chaos. Comment le chaos peut s'inviter dans nos vies si on le laisse, si on l'entrevoit, et il n'y a pas forcément que des côtés négatifs à jouer avec le chaos.
Et vous dites qu'il faut laisser une part d'improvisation dans nos vies.
Oui. Je pense que de vouloir tout faire entrer dans des tableurs, de vouloir tout prévoir, de tout quadriller, nous amène à assécher une part de notre existence, à nous assécher même nous-mêmes physiquement et mentalement. L'improvisation, moi j'ai étudié l'improvisation, que ce soit en musique classique et dans le jazz, c'est un espace de liberté où on se met à respirer. C'est un espace de liberté où la vie jaillit. C'est un espace de liberté où la décision de vivre se fait sans aucun effort.
Oui, à noter que le concert de Keith Jarrett était un concert improvisé. Hein. Vous regardez.
Entièrement improvisé.
24 janvier 1975, vous googlez, vous aurez l'histoire de ce concert qui est resté un concert de légende.
Vous pouvez le trouver dans le livre aussi.
Dans votre livre, bien sûr. Alors, on va écouter une chanson. Je ne suis pas toujours pour les reprises, mais là, on va écouter une reprise d'une chanson d'Elton John et Bernie Taupin qui s'appelle Sorry Seems to Be the Hardest Word. Donc en français, ça veut dire.
Le pardon est un mot, et probablement le mot le plus difficile à dire et à prononcer.
Alors, c'est une chanson qui a été reprise par beaucoup de grands artistes, Joe Cocker, dernier enregistrement de Ray Charles. Donc, il y a une version par Ray Charles. Mais je vous propose d'écouter la version de Mary G. Blige, qui est extraite de la bande originale d'un film qui s'appelle Bridget Jones, enfin, je ne sais pas très bien en anglais, L'âge de raison. Voilà. Et on va l'écouter parce qu'elle s'est complètement réappropriée la chanson et elle en a fait quelque chose d'incroyable.
You care. What do I gotta do when lightning strikes me? And awake to find that you're not there. What do I gotta do to make you want me? What do I gotta do to be heard? And what do I say when it's all
hardest word. It's sad, so sad. It's a sad situation, and it's getting more and more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over, babe? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word.
Sur Beurre FM, c'est un plaisir, c'est un cadeau qu'on vous fait.
Et je le prends tel quel.
Ouais. Pourquoi cette chanson alors ?
Alors pour plein de raisons.
Parce que vous conseillez à des gens de l'écouter en thérapie d'une certaine façon.
Pour plein de raisons, parce que déjà moi c'est une chanson qui m'a beaucoup fait évoluer. Alors j'ai eu la chance de l'entendre en concert, je crois près d'une dizaine de fois. J'ai dû voir Elton John une dizaine de fois à travers le monde en concert et c'est toujours cette chanson est un moment incroyable parce qu'on sent que lui-même porte une émotion forte, qu'elle a certainement un sens qu'on ne connaît pas pour lui. Et je me suis rendu compte, pour moi et pour tellement de gens, que au fond, c'est tellement dur de demander pardon. C'est tellement dur de prononcer le mot pardon. Or, il y a une telle liberté dès lors qu'on accepte d'entrer dans cette dimension-là, qu'on accepte de reconnaître l'erreur, d'accepter sa bêtise, d'accepter sa colère, qu'elle, nous avons des réactions. Mais la liberté vient probablement de ce qui est attaché à un simple mot.
Oui, enfin, c'est, le dire, c'est plus facile que de le penser vraiment. Parce que si on dit « je te demande pardon », mais que derrière, il n'y a pas cette...
Mais c'est pour ça que la chanson dit
«
sorry seems to be the hardest word ». Ce qui veut clairement dire, dans la chanson d'Elton John, le poids qu'on associe au mot. Il ne s'agit pas de dire un mot. Il le répète dans un refrain, plusieurs fois. Donc on ne peut pas ne pas penser le mot pour penser les plaies.
L'habit fait ou pas, le moine? Bon, vous lirez le lien. Des fois, vous vous posez des questions essentielles, quand même. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui adorent les jeux, les concepts, les théories, alors quelque chose que je ne connaissais pas, c'est un jeu qui s'appelle Les fourmis de Langton, du nom de son inventeur, conceptualisateur. Ça sert à quoi ?
En fait, c'est un jeu passionnant, assez extraordinaire, qui est un jeu mathématique, donc qui n'est pas un jeu pour s'amuser, qui est une démonstration en réalité que, eh bien, encore une fois, si on parle de chaos, il y a des dimensions chaotiques qui donnent naissance à de l'organisation. Alors vous verrez, dans le livre, je donne beaucoup d'exemples comme ça sur comment est-ce qu'au fond, la vie repose sur des éléments chaotiques. Mais le jeu de Langton montre que si vous donnez... Alors, on parle de fourmis de Langton.
Mais c'est des vraies fourmis, à la base. La fourmi, elle est sur le papier.
Non, c'est un fourmi artificiel. C'est pour ça qu'on parle de vie artificielle, hein, à la base. Hein.
C'est-à-dire c'est une fausse fourmi.
C'est une fausse fourmi que vous déplacez sur une feuille cadrée.
Sur les cases.
Sur les cases, voilà. Avec deux règles qui sont assez simples. Et en fait, pour aller vite... La fourmi, au début, dessine un schéma complètement chaotique. Au bout d'un certain nombre de mouvements, eh bien, elle se met à aller tout droit. Et on ne sait pas pourquoi. Et pourquoi ce jeu, quand on y joue ? Ben, au début, y a des jolis dessins, puis après, c'est le chaos. Puis après, la fourmi se met à aller tout droit pour le reste de l'éternité. Et donc, c'est un des mystères de la vie artificielle. Et il semblerait que, si on commence à regarder la nature, certains scientifiques se posent sur la question et s'interrogent en se demandant, tiens, est-ce qu'il n'y a pas le même phénomène sous-jacent ?
Googlez. Et lisez le livre. Les fourmis de Langton. Est-ce que vous avez fini par répondre à quatre questions de Voltaire, donc, que suis-je, où suis-je, où vais-je et d'où suis-je tiré ? Est-ce que vous avez réussi, vous, à répondre à ces questions ou alors vous vous en tirez par des pirouettes ?
Je vais vous répondre autrement. Je me souviens, que j'ai étudié l'hypnose avec un monsieur qui s'appelait François Roustan. Et on se voyait chaque semaine, de une à deux fois par semaine. Et à chaque fois, je lui posais des questions sur « Mais François, qu'est-ce que l'hypnose ?» Et à chaque fois, il avait une définition différente. Puis un jour, je lui ai dit « Mais en fait, votre définition, elle change tout le temps. » Il dit « Oui, c'est la définition du moment. » Donc, au quadrilatère de Voltaire, je réponds toujours de manière différente parce que la vie change sans cesse. Et si, pour reprendre cette histoire de des fourmis de Langton, on est un moment dans ces mouvements, il est essentiel de pouvoir accepter que ces définitions évoluent, d'accepter que d'intégrer de nouvelles perspectives, d'intégrer un peu de chaos, va vous permettre de changer d'avis et de regarder votre vie autrement, et ça jusqu'au dernier souffle. Et c'est une merveilleuse nouvelle.
Est-ce que vous le considérez comme votre mentor ?
Alors c'est amusant que vous posiez cette question-là, parce qu'on a eu dans nos échanges un jour, il me dit, il avait écrit un livre sur les disciples de Freud, et comme vous le savez, une grande partie d'entre eux ont mal tourné, ont mal fini. Et donc il avait cette crainte, et il me dit, vous n'êtes pas mon disciple. Et je lui dis, ça tombe bien François, je suis ni votre disciple ni votre élève. Il me dit, ça me va alors.
C'est que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Vous lui avez consacré un livre quand même.
Oui, parce que...
Mais vous le pensez vraiment ou pas ?
Non, je le pense vraiment. Je pense que j'ai... Alors, on a eu des échanges extraordinaires, c'est-à-dire que j'ai beaucoup appris. J'ai énormément appris avec cet homme, c'était une rencontre fantastique.
L'hypnose que vous pratiquez aujourd'hui, elle est inspirée de la sienne.
Elle est inspirée de la sienne, mais je ne dirais pas que... Quand les gens m'appellent parfois, ils me disent... Vous faites de l'hypnose de François Roustan ? Je dis, je ne sais pas quoi répondre à ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, je fais de l'hypnose, mais ericksonienne, par exemple. Ma pratique, elle est tirée de tous les enseignements que j'ai pu avoir, aussi bien en Inde sur la méditation et le yoga, que et en particulier du yoga nidra, que du travail qu'on a fait ensemble. Donc, je crois qu'il est réducteur de se définir par rapport à une personne. C'est nos individualités qui font la richesse de ce que l'on peut proposer. Après, ça convient à certaines personnes et pas à d'autres. Mais si vous posez la question de « Est-ce que Roustan a été une des rencontres essentielles dans ma vie ?» Je vous dirais oui.
Léonard, Anthony, le plaisir d'avoir parlé avec vous. C'est un bonheur que de vous écouter pendant une heure. Vous réécouterez cette émission qui s'écoute très bien en podcast sur beurrefm.net. Vous verrez la captation de l'émission sur notre chaîne YouTube. Et je rappelle le titre de votre livre. On ne choisit pas de naître, on décide de vivre aux éditions Overjoy. Passez un très bon dimanche sur Beurre FM.